Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver dans cette nouvelle émission des Plantes Vagabondes sur Radio G. Je suis Claudie, ingénieure paysagiste conseil spécialisée en médiation nature et vous accompagne durant la prochaine demi-heure pour découvrir l'armoise commune, appelée autrefois la mère des herbes ou la mère des simples. Une plante aux vertus multiples indispensable aux femmes. Car comme tous les vendredis pairs à 13h, nous partons en nature à la découverte de l'histoire, des légendes, du mode de vie et des usages, des plantes sauvages. Pour m'accompagner dans cette émission, nous aurons le plaisir d'écouter la toute première chronique de Arcandia dans laquelle elle nous apprendra à jardiner avec les plantes sauvages. Elle nous parlera aujourd'hui de la mort dans nos jardins et comment l'appréhender. Nous écouterons aussi la chronique paysanne de Laura, paysanne herboriste, sur l'utilisation de l'armoise en parfumerie. Et enfin, Marie nous partagera une nouvelle recette à base d'armoise, justement dans sa chronique « Enherbez-vous ». Tous nos sens seront donc sollicités dans cette émission, puisque le chant de l'alouette des champs nous accompagnera. Vous l'aurez remarqué, nous avons à cœur de vous faire vivre cette émission en immersion sonore. Cela peut paraître évident du fait du format de diffusion radio. Pour autant, notre démarche s'inscrit de façon plus large. À Écuyer, je me déplace souvent à vélo et j'apprécie tout particulièrement sur mon parcours l'ambiance sonore animée par le vent, le bruissement des feuillages, le chant des oiseaux ou le crissement des insectes. Au fil de mes trajets, il m'arrive de côtoyer des joggeurs, le regard fixe et concentré, les écouteurs sur la tête. Je prends ainsi conscience que nos vies sont non seulement coupées physiquement de la nature, mais aussi de son univers sonore, pourtant si riche, si inspirant. En tant que paysagiste, le paysage sonore fait partie des éléments indispensables à l'analyse sensible. Au fil de mes lectures, je découvre une nouvelle discipline en plein essor, l'écologie du paysage sonore, car notre planète a une bande son extraordinaire, associant sons physiques, animaux et végétaux. L'objectif de cette discipline, identifier les indices de santé de notre monde afin de mesurer et d'évaluer les changements sur notre planète. Ainsi, à sa modeste échelle, notre émission se veut une invitation à retrouver le lien sonore qui nous unit aux autres espèces, ce qui, je vous l'assure, est un moyen prodigieux pour recouvrer et améliorer la santé mentale. Allons, il est temps de faire connaissance avec notre plante invitée du jour, l'armoise. Affiliée à la grande famille de plantes à fleurs des astéracées, anciennement nommées composées, les armoises sont des plantes aromatiques diffusant une forte odeur camphrée. Très reconnaissables, leur silhouette dressée au feuillage gris argenté très découpé peut atteindre plus d'un mètre. Elles apprécient les milieux urbains et les friches où l'inaction humaine leur permet de déployer leurs tiges droites. Opportunistes, elles colonisent pieds de mur, bords des chemins, fossés et terrains vagues. Le genre Artemisia regroupe des espèces célèbres et utilisées par les humains pour s'alimenter et se soigner, parmi lesquelles se trouvent l'absinthe, l'arquebuse, le genepi ou armoise des montagnes, l'estragon et l'armoise annuelle, notre armoise mère des simples. L'armoise annuelle ou absinthe de Chine, car originaire de Chine, a un feuillage vert clair au revers argenté, qui émet une odeur très prononcée lorsqu'on le froisse. Sa tige unique forme une pyramide pouvant atteindre jusqu'à 2 mètres. Lorsqu'elle est écrasée, elle a la faculté d'en générer de nouvelles. Tout au long de l'été et jusqu'à l'automne, elle produit une inflorescence caractéristique des astéracées, c'est-à-dire des petites fleurs tubulaires regroupées en capitules globuleux, eux-mêmes regroupés en panicules. Elles forment ainsi de petites grappes très reconnaissables, de fleurs jaunes pâles à verdâtres. Sous le poids des fleurs, la tige peut ployer. À maturité, les fruits se détachent pour épandre les graines des futurs pieds. Car cette armoise ne vit qu'une année. Une autre armoise vivace, elle, se plaît dans nos contrées. Il s'agit de l'armoise commune, Artemisia vulgaris. Son feuillage est moins découpé et plus foncé que celui de l'armoise annuelle. Elle est aussi dénuée de parfums. Moins solitaire et peut-être plus citadine, elle a la capacité à se regrouper en grandes populations, des sortes de villes d'armoises. Les armoises sont de précieuses plantes hôtes pour de nombreuses chenilles, leur feuillage leur assurant nourriture et gîte. L'armoise annuelle apprécie les sols secs et piétinés. C'est une plante bio-indicatrice des sols pauvres en humus et en matière organique, avec une très faible capacité à retenir l'eau. Rien de tel que d'évoquer l'armoise en poésie. Je vous invite maintenant à écouter le poème « L'ombre des jours » écrit en 1902 par Anna-Elisabeth de Noailles, une poétesse et romancière issue d'une riche famille de la noblesse roumaine qui a partagé sa vie entre Paris et Évian. Sa poésie porte témoignage de sa préférence pour la beauté tranquille et l'exubérance de la nature. Écoutons-la. Parfumés de trèfles et d'armoises, serrant leurs vifs ruisseaux étroits, les pays de l'Aisne et de l'Oise ont encore les pavés du roi. La route aux horizons de seigle, de betteraves et de blé noir a l'air du XVIIe siècle, avec les puits et l'abreuvoir. Un pied de rose et de vigne fournit de feuilles les maisons, où le soir la lumière cligne aux fenêtres en floraison. Dans les parcs, les miroirs du sable reflètent l'ombre du sapin. La pelouse est comme une fable avec sa pie et ses lapins. On y voit à l'aube incertaine des lièvres rouler dans le thym, comme chez Jean de La Fontaine quand son livre sent le matin. Quand La Fontaine avait sa charge de mettre des eaux et forêts, le pied pliait en pente large. Le bois avait ses bruits secrets. Les rivières avaient leurs tanches, la plaine humide le héron, comme aujourd'hui où le jour penche son soleil sur les arbres ronds. Ce soir, cette basse colline bleuit au crépuscule long, comme quand le petit Racine jouait à la Ferté-Milon. Ô beau pays d'ordre et de joie, vous ne déchireriez pas le cœur comme à présent où l'homme le ploie sous votre ardeur et votre odeur. Quand Fénélon, au temps champêtre, marchait dans le soir parfumé, portant déjà la langueur d'être, un jour malgré soi-même aimé, la lune, le hêtre immobile, l'eau grave, l'if silencieux, entrait dans son rêve tranquille et formait la face de Dieu. Et quand, après des pleurs de rage, les amants entraient au couvent, les étangs et les beaux ombrages les consolaient des yeux vivants. Car dans ce temps, haute et paisible, la nature, ses bois, ses eaux, n'avait pas cette âme sensible qui, plus tard, fit pleurer Rousseau. En parlant de nature, je vous invite à écouter Arcandia dans sa chronique « Jardiner avec les plantes sauvages » où elle nous invite à appréhender différemment la mort au jardin.
La nature, d'elle-même, quand nous la laissons faire, se tire doucement du désordre où elle est tombée.
Bonjour, je vous présente aujourd'hui une nouvelle chronique « Créer son jardin avec la nature ». Je m'appelle Arcandia, je suis jardinière et cuisinière de saison. Je travaille depuis 2019 à créer un jardin d'ornement à partir des plantes sauvages qui se manifestent sur mon terrain. Il s'appelle les Jardins des Arcans et se trouve à Nioiseau. Accueillis et soignés, je vous montre à quel point les plantes sauvages peuvent participer à la beauté de nos jardins et comment elles soutiennent la biodiversité. Aujourd'hui, je mets les pieds dans le plat en vous parlant de la mort au jardin. C'est l'automne, le monde végétal se prépare au repos hivernal et nous vient l'envie de mettre au propre nos jardins. Tiges et fleurs séchées, plantes en fin de cycle et vieilles branches dérangent notre regard et nous voilà munis de nos outils pour nettoyer tout cela. Mais avant de vous lancer, faisons un point sur le rôle essentiel de toutes ces plantes mortes ou en fin de cycle. Car les tiges séchées et les branches mortes n'ont pas fini de jouer un rôle écologique, leur histoire et leur participation au vivant continuent. Tout d'abord, elles sont un abri pour de nombreux insectes qui y pondent, y hivernent et s'y métamorphosent, devenant à leur tour une réserve de nourriture pour les autres animaux. Les abeilles solitaires, les coccinelles et certaines araignées, pour ne citer qu'elles, dépendent de ces habitats naturels pour passer un hiver à l'abri. Il en va de même pour les branches mortes qui abritent de nombreux champignons lignivores et insectes xylophages. Tiges creuses, sèches ou à moelle, ainsi que les vieilles branches, ce sont elles les hôtels à insectes dont votre jardin a vraiment besoin. Ensuite, certaines plantes ont besoin d'une période de froid et d'humidité qui lève la dormance de leurs graines. On appelle ça une stratification froide. D'autres, notamment celles qui forment des capsules comme les pavots ou les nigelles, vont libérer leurs graines au fur et à mesure de leur maturation. La nature est bien faite, les graines tombent au bon moment de l'année pour avoir toutes les chances de germer au printemps. Toutes ces graines stockées en hauteur sont aussi une réserve de nourriture pour tout un tas d'animaux. L'emblématique chardonneraie se nourrit des graines de chardon. Les fourmis sont friandes de graines de violette, d'anémones, de scabieuses ou encore d'euphorbe et assurent leur dispersion. Mais n'oublions pas de citer l'ortie qui offre à la fois le gîte et le couvert toute l'année à plus d'une centaine d'espèces. Vous l'aurez compris, le grand ménage du jardin avant l'hiver peut avoir un très gros impact sur la biodiversité présente chez vous. Il est donc important de ne pas se hâter avant d'agir et d'avoir les bons gestes pour concilier le beau et l'harmonie esthétique du jardin que les plantes mortes peuvent parfois déranger et la santé de la biodiversité. Au jardin des arcans, je sélectionne les tiges séchées en bon état qui offriront au jardin une belle silhouette tout l'hiver. S'il faut, je les tuteur. Pour les tiges cassées ou affalées, je coupe les parties disgracieuses en veillant à laisser une partie de la tige encore debout. Si ce sont des plantes que je souhaite revoir au jardin, je disperse la matière végétale au sol. Sinon, je les déplace dans mes tas de compost isolés où je mets les quelques indésirables. Évidemment, la bonne gestion d'un jardin naturel vous dispense des allers-retours en déchetterie. Je vous reparlerai en mai de diverses techniques pour sublimer votre jardin naturel et sauvage, et notamment de la technique du tressage qui permet de stabiliser les tiges séchées pour tout l'hiver. Pour ceux qui souhaitent quand même faire un grand ménage, je vous conseille d'attendre le printemps lorsque les premiers beaux jours seront de retour et que les animaux seront sortis de leur hibernation. Dans la prochaine chronique, je vous parlerai du terroir comme révélateur de paysage et de mon grand amour pour le sol, sans lequel aucun de nos jardins n'existerait. À bientôt !
La nature, d'elle-même, quand nous la laissons faire, se tire doucement du désordre où elle est tombée.
Vous êtes dans l'émission Les plantes vagabondes, l'émission 100% nature de Radio G sur 101.5 FM et nous partons à la découverte de l'armoise. Surnommée herbe à la matrice au Moyen-Âge, dans l'imaginaire populaire, l'armoise a longtemps été considérée comme abortive. Les études récentes n'ont pas confirmé ce rôle. Malgré cela, elle démontre un effet rééquilibrant du système hormonal féminin. Avant de poursuivre sur les effets médicinaux et culinaires de cette plante majestueuse, je vous invite à prendre la route de Vénus avec Émilie Loiseau en hommage à ses propriétés féminines.
Nos larmes au pied de la frontière, j'ai posé les armes, cherchant un jour de plus la route de Vénus. Le silence de l'aube a fait taire les chiens. Au bord du plateau s'accordent les musiciens. Il faudrait partir avant. Thank you. écrans de fumée. Nos vies ne seront pas vos rêves exaucés. Cherchons un jour de plus la route de Vénus. J'ai couché nos peines, j'ai couché nos larmes. Au pied de la frontière, j'ai posé les armes.
Le nom de genre de l'armoise Artemisia trouve son origine dans l'Antiquité, car il fait référence à la déesse lunaire grecque chasseresse Artémis, jumelle d'Apollon et surtout grande protectrice des femmes et par extension de la nature intacte. Dans l'Égypte antique, on la surnomme Herbe d'Isis. Très aromatique, l'armoise annuelle fait partie des nombreuses plantes à la floraison estivale au pouvoir décuplé s'y cueillit lors du solstice et célébré le jour de la Saint-Jean, le 24 juin. Beaucoup de surnoms en attestent, comme ceinture de Saint-Jean, couronne de Saint-Jean, Artémise, armoise citronnelle, herbe au sang-goût, mère des herbes, herbe royale, absinthe sauvage. Ainsi, grâce à l'armoise, les femmes soulagent les règles douloureuses, régulent leur cycle et améliorent leur accouchement. Toujours en usage en phytothérapie, elle soigne les troubles digestifs, favorise l'appétit et constitue un excellent vermifuge, comme en témoigne son autre nom d'herbe au vert ou wormwood chez nos amis anglais. Son action sur la vésicule biliaire s'exprime par son amertume, autant dire que cela ne convient guère à nos papilles actuelles, habituées aux saveurs sucrées. Manger des aliments plus amers serait pourtant bénéfique à nos organismes. Comme de nombreuses plantes médicinales, l'armoise s'emploie en cuisine et permet ainsi de profiter de ses bienfaits digestifs en ajoutant quelques feuilles dans les bouillons, les farces ou les plats de viande. Avant le houblon, il parfumait les bières en Allemagne. Toutes ces saveurs m'ont mis l'eau à la bouche, l'occasion toute trouvée d'écouter Marie dans sa chronique culinaire « Enherbez-vous » consacrée à l'armoise.
Bonjour à tous et bienvenue dans la rubrique « Enherbez-vous ». Aujourd'hui, nous allons cuisiner l'armoise, Artemisia vulgaris. D'une odeur légèrement citronnée et épicée, ainsi que camphrée, elle nous apporte un goût amer et citronné. Elle est connue pour réguler le cycle menstruel et pour ses propriétés antiseptiques, notamment en cas de problème urinaire. Attention pendant la grossesse, elle est à proscrire, c'est une plante abortive. Elle peut être également toxique à haute dose et à utilisation prolongée. Ici, aucun problème puisque nous allons l'utiliser en petite quantité dans notre recette. Dans un dos de cabillaud aux tagliatelles de carottes et aux jeunes pousses d'armoise. Nous aurons besoin pour 4 personnes d'un kilo de carottes, de 4 portions de dos de cabillaud, comptez 150 à 200 grammes par personne, 250 pour les plus gourmands, 20 centilitres de crème fraîche, un ou deux citrons, du sel et du poivre. Préparez dans un premier temps les tagliatelles de carottes en formant des rubans avec un épluche-légumes. Le cœur des carottes sera réservé pour une soupe. Plongez les tagliatelles de carottes dans de l'eau bouillante pendant 2 à 3 minutes, puis placez-les sous l'eau froide. Formez un lit avec ces rubans de carottes au fond de votre plat. Déposez-y votre poisson, arrosez-le avec la crème fraîche salée et poivrée. Ajoutez le jus de citron et terminez avec les pointes de armoise et les zestes de citron. Enfournez à 220 degrés dans un four chaud et le poisson doit être juste cuit. comptez 12 à 15 minutes. Nous pourrons accompagner ce plat d'un beurre blanc qui sera excellent. Je vous souhaite une très bonne dégustation et je vous dis à la prochaine fois.
L'armoise est la mère des herbes et a été depuis fort longtemps utilisée par les femmes qui sont injustement qualifiées de sorcières. Portée en ceinture, elle permet aux voyageurs de se déplacer sans fatiguer. C'est une plante reconnue pour lutter contre les mauvais sorts. Cueillie à la Saint-Jean et portée à la ceinture, elle protège contre les fantômes et les sortilèges. En Belgique, on attache un bouquet aux portes et à la Saint-Jean, la tête couronnée d'armoise, on en jette des bouquets dans le feu pour éloigner les maladies. Dans le Grand Albert, un grimoire célèbre de magie, rédigé en latin, commencé au XIIIe siècle et édité en 1703, qui parle des vertus des herbes, des pierres et de certains animaux, il écrit ceci sur l'armoise. Quand on veut entreprendre un voyage facilement et sans se fatiguer, on portera à la main l'herbe qu'on nomme armoise, et on s'en fera une ceinture en marchant. Ensuite, qu'on fasse cuire cette herbe, qu'on s'en lave les pieds, on ne se lassera jamais. De même, celui qui a soin d'avoir toujours sur lui cette herbe ne craint point les mauvais esprits, ni le poison, ni l'eau, ni le feu, et rien ne peut nuire. De plus, si l'on en tient à la maison, le tonnerre ne tombera point dessus, ni aucun air venimeux ne l'infectera, pourvu qu'on la mette à l'entrée. Alors, pourquoi se priver d'une plante procurant de tels bienfaits? Sans compter que cette herbe a le pouvoir de dénouer certaines aiguillettes, pour remédier à cela, en placer sous le matelas des couples, suffit à relancer la machine. L'armoise annuelle s'utilise aussi en encens, parfume l'air et le purifie. Pour en apprendre davantage sur ses usages, écoutons maintenant Laura dans sa chronique « Paysanne ».
Bonjour et bienvenue dans la chronique paysanne. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'armoise. Ici, en Anjou, on peut observer l'armoise commune en grande quantité. Sur les bords des chemins, les berges ou encore sur les terrains vagues. Elle peut atteindre jusqu'à 2 mètres de hauteur et se reconnaît facilement à sa feuille ramifiée, à sa couleur verte tirant vers le bleu-gris, et à son odeur légèrement citronnée. Botaniquement parlant, c'est une cousine de l'absinthe. Toutes deux sont utilisées depuis longtemps en médecine traditionnelle, dans de nombreux pays, mais aussi dans des pratiques chamaniques et religieuses. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un autre usage, peut-être moins connu, la teinture végétale. Puisque l'armoise pousse en abondance sur notre territoire, elle pourrait être une excellente ressource locale pour teindre naturellement des fibres. On peut teindre aussi bien des fibres animales, comme la laine ou la soie, qui fixent très bien la couleur, que des fibres végétales, comme le coton, le lin, le chanvre, le bambou ou la jute, dont les fibres retiennent un peu moins bien la teinte. Pour s'amuser à faire des essais, on peut utiliser de petits morceaux de tissu, des ouvrages tricotés ou crochetés, comme de vieux napperons, de la dentelle ou encore des fils à broder. Avant de teindre, les fibres doivent subir une préparation qui permet à la couleur de bien se fixer. C'est ce qu'on appelle le mordançage. C'est une étape essentielle et parfois un peu technique. Le mordançage se fait souvent à l'alun, une substance naturelle qui crée des ponts entre la fibre et les colorants. On peut aussi pratiquer l'engalage, un procédé consistant à tremper les fibres dans un bain de noix de galle, riche en tanins. Ces galles se récoltent idéalement en hiver, sur les chênes. Quand les arbres n'ont plus de feuilles, on les repère alors plus facilement. Les galles, ce sont de petites excroissances provoquées par de minuscules guêpes. Une fois le mordantage réalisé, il est temps de passer à la teinture. La méthode la plus courante est celle de la décoction à chaud. On plonge alors une bonne quantité de plantes dans de l'eau, que l'on chauffe doucement avant de la filtrer. Les fibres mordancées sont ensuite immergées dans ce bain colorant, puis bouillies pendant plusieurs heures. Avec l'armoise, on obtient de magnifiques nuances de vert, du plus clair au plus profond. La teinte finale dépendra de la quantité de plantes, du type de fibres et des bains de mordançage utilisés après la teinture. Ces derniers permettent de modifier subtilement les tons et de jouer avec toute la palette qu'offre la nature. Ainsi, l'armoise, souvent considérée comme une simple plante des bords de chemin, révèle toute sa richesse, médicinale, symbolique et même artistique. Une plante qui nous invite à redécouvrir le lien entre la terre, la couleur et la création. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle chronique paysanne.
En guise de conclusion à cette émission, voici une dernière citation tirée de l'herbier du chaman de Mayatol. Sur l'armoise, aussi surnommée sourcil de lune, car elle tire son pouvoir de cet astre. L'armoise habite l'espace situé entre le repos profond et l'état de veille. Elle est la fille du clair de lune et protège ceux qui voyagent dans le temps des rêves. Elle s'enroule autour de votre esprit, transformant les rêves qu'elle vous chuchote en mots et en images que vous pouvez vous approprier en gravissant les niveaux de conscience qui mènent au réveil. Bien que la vigilance constante de l'armoise la rende un peu grincheuse et amère, elle connaît tous ces mondes qui se superposent et peut vous guider à travers les chemins sinueux de l'inconscient collectif. Convoquez-la pour vous accompagner à travers les rêves et le travail intérieur. Si elle vient à vous, elle vous invitera à plonger dans ces royaumes subtils. Et cette émission est terminée, il faut nous quitter. Vous trouverez toutes les informations pratiques, liens et références dans le blog de notre site www.leplanty.fr. Bien sûr, vous pouvez écouter et réécouter sans limite tous nos podcasts de l'émission Les Plantes Vagabondes sur radio-g.fr. N'hésitez pas à faire partager autour de vous ce moment nature. Toute l'équipe du Planty et moi vous donnons rendez-vous en décembre sur 101.5 FM pour découvrir une famille exceptionnelle et indispensable, les graminées. À très bientôt, portez-vous bien.